Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside et aujourd'hui on va parler du Raw du 10 octobre 2016 pour le 25e épisode de Catch Up, Cotillon, Champagne, c'est la fête. Avec moi pour m'accompagner, le fondateur, le créateur, Hank.
Et
Comment
oui,
vas-tu Hank?
j'ai fait les fondations et je suis parti du terrain de construction. ça va, ça va.
Et le spécialiste de la vie américaine, monsieur l'amiral Ambar, comment vas-tu?
Salut tout le monde, ça va bien. Eh bien, écoute, bien ravi d'être là pour ce RAW.
Alors, on va pas tarder à commencer. L'Euro du lundi 10 octobre, donc qui se passait à Oakland en Californie. Donc Oakland, c'est l'un des trois ports les plus importants de la côte ouest des États-Unis, hein, pour si vous le saviez pas. Au programme ce soir, on va avoir une alliance de champions, une distribution de popcorn douteux, des légendes qui cachetonnent pour la promotion d'un jeu vidéo, une balade sur la route des souvenirs et une amitié passée à rude épreuve. Donc on démarre le show avec l'arrivée de la nouvelle championne féminine, Sasha Banks, qui arrive au ring. Elle nous parle de son enfance en tant que fan de la WWE, où elle regardait les émissions avec sa mère à la télé. Elle dit qu'elle donc elle nous parle de son héros, Eddie Guerrero, dont elle était fan. Elle expliquait qu'à l'époque, elle voulait devenir comme lui. Elle mentionne aussi Lita Trish Stratus, qui avait aussi fait le main event de Raw en leur temps, hein, comme Sacha et Charlotte la semaine dernière. Et elle propose de faire l'histoire à nouveau à Hell in a Cell, le prochain pay-per-view de la WWE qui est lié à Monday Night Raw. Le premier Women's Championship disputé dans Hell in a Cell, dans la cage. Là-dessus, Charlotte arrive, mais à la surprise générale, c'est la musique de Rousseff qui retentit pendant que Charlotte est en train d'arriver au ring. Il vient, il prend le micro et il explique que personne ne s'intéresse au Women's Championship et que c'est bien Rousseff le main event partout où il va. Donc voilà, il commence à essayer de parler un peu de ce qu'il est venu présenter, mais Charlotte lui prend directement le micro. Et là, elle commence à expliquer que peut-être que sa ceinture, pour l'instant, est autour de la taille de Sasha Banks, mais en tout cas, Rousseff, qui il est pour se permettre de manquer de respect à la reine de Monday Night Raw. Elle accepte dans la foulée le défi de Sasha sous les yes chants de la foule, hein, qui en délire. Là-dessus, Rousseff reprend le micro. Il dit bah c'est bien pour vous mais j'ai pas fini de parler moi. Il traite Charlotte de Black Swan. Il dit qu'ici c'est son ring, c'est lui le patron, faut lui obéir. Et là Sasha Banks lui reprend tout de suite le micro, elle jette le micro par terre. Là-dessus c'est Lana qui reprend le micro. Elle commence un peu à invectiver les filles en disant que voilà elles se prennent pour des women, mais c'est juste des petites filles, elles sont toujours à pleurnicher. Bah là c'en est trop, les filles attaquent Lana, Lana tombe par terre, alors Rousseff il s'énerve, il va d'abord voir ce qui se passe auprès de Lana, voir si elle n'est pas blessée. Là les deux filles en profitent pour faire un stéréo dropkick, hein, un dropkick chacune sur Rousseff qui est projeté à l'extérieur du ring. Rousseff fulmine, il remonte sur le ring. On a bien l'impression qu'il va aller corriger les deux superstars féminines, hein, Charlotte et Sasha. Mais là, c'est la musique de Roman Reigns qui retentit. Il débarque, il fait fuir Rousseff. Et donc plus tard dans l'émission, on aura un mixed match entre Sasha Reigns d'un côté, Sasha pardon, et Roman Reigns d'un côté. J'ai déjà marié les deux. Et de l'autre, Rousseff et Charlotte. Et avant le match, on aura une petite discussion dans les coulisses entre Charlotte et Lana. Lana en mode jalouse, hein, tu dis tu t'approches pas de mon mec. Et puis bon, bah finalement, se mettre d'accord pour que ça se passe bien pour le match de ce soir. Bah peut-être avant qu'on parle du match en lui-même, qu'est-ce que vous avez pensé de ce début de show? Bah, l'amiral pour commencer.
Un peu déçu, encore une fois, de la promo de Sacha au micro, qui répète toujours la même chose semaine après semaine après semaine, son enfance nique, elle veut faire ça, blablabla. Donc c'est un peu un disque rayé qui tourne en rond. L'intervention de Rousseff, ok, pourquoi pas. Par contre, effectivement, le moment où Roman Reigns arrive, alors comme tu l'as dit, Rousseff re-rentre dans le ring, on a l'impression qu'il va peut-être se mettre à combattre ou à frapper Sacha et Charlotte. Roman Reigns qui débarque, il a un t-shirt pour soutenir la cause du désectage contre le cancer du sein. Donc il vient pour sauver les filles de Rousseff et il se fait quand même huer. Et c'est incroyable, quoi. Je sais pas ce qu'il doit faire, en fait, pour ne plus se faire huer dès qu'il pointe au bout de son nez. C'est juste what the fuck. Bon, après, voilà, le segment, pourquoi pas un mixed tag match, c'est longtemps qu'on voit pas. Donc, c'est pas le truc qui vend du rêve ni plus intéressant, mais why not?
Ok. Hank?
Tadam, tadam. écoute, ce que je retiens de bon de ce segment, c'était Charlotte. Qui fait que des bons segments hein, depuis des semaines. Elle a été vraiment. Elle a très bien joué la femme forte, même au moment où elle a volé le micro à Rousseff. Truc vraiment inattendu. Pour le coup, le moment où Sacha dégomme le micro de Rousseff, c'était du coup l'effet de surprise n'était plus là. Mais donc voilà. Banks est une catastrophe au micro. Il faut vraiment, je sais pas, il faut lui expliquer, faut lui dire, parce que ça va plus aller là, hein. Ça fait quelques mois maintenant, il faut lui dire, tu n'es pas bonne au micro, il faut que tu travailles, il faut que, même si on te donne un texte qui est pas terrible, et bah tu le reformules, tu fais quelque chose, parce que c'était le blabla, comme disait l'amiral, c'était le blabla qu'on entend depuis un mois, même plus. Et puis les histoires de j'arrive et je suis super contente d'être en haut de enfin sur dans comment dans les projecteurs et que voilà c'était l'histoire de toute ma vie, c'est bon ça on l'a 50 fois par an, on a déjà
shit.
Ouais voilà, on a déjà un mec qui a toute sa carrière basée sur ça et qui s'appelle Dolph Ziggler, donc donc bon on va arrêter. Donc voilà. Sinon le segment était pas ça. Et puis l'arrivée de Roman Reigns, bon, ça fait 300 fois qu'on le voit arriver pour sauver des gens et tout le monde le déteste parce que à côté de ça, il fait des trucs sexistes, il fait des, enfin bref, je m'explique. Je dis la même chose toutes les semaines. Donc si vous voulez, si vous voulez mon avis, vous regardez, enfin vous écoutez la fin du dernier podcast. Voilà.
Faudrait faire un remix de YouTube de tous tes arguments anti Roman Reigns en boucle, ça serait génial.
Et pourtant, il est très bon dans le ring. Voilà.
Oui, mais bon, mais voilà, comme je le disais l'autre jour, il pourrait démanteler lui tout seul Daesh et réduire la faim dans le monde. Et ben, il se ferait quand même huer, quoi. Il est fini, il faut qu'ils intègrent ça dans son gimmick, quoi. Faut en faire une force. Je sais pas, quoi.
Ouais, c'est-à-dire, ouais, il essaye de faire abstraction du truc un peu, mais ça plombe un peu à chaque fois qu'il débarque dans le ring, hein. Ça c'est un peu dommage, c'est sûr. Moi, pour ma part, j'ai trouvé ça plutôt original, le fait de mélanger un peu le championnat US et les filles. Après, c'est sûr que Sacha, effectivement, au micro, c'est pas ça, mais il faudrait qu'elle ait, je sais pas, des cours de diction ou quelque chose comme ça, parce qu'elle a un phrasé qui est vraiment pas, qui est pas beaucoup, elle a une petite voix de canard, là, qui passe pas trop, hein. Ça c'est sûr. Donc après le match, concrètement, d'abord ça démarre, si vous voulez, c'est Charlotte qui veut commencer qui fait mine de commencer le match, mais tout de suite elle sort et elle laisse Rousseff démarrer. Donc on se retrouve avec Roman Reigns contre Rousseff, ça se rend coup pour coup, hein. Bon, ils commencent à se connaître par cœur, hein, les deux là. Rousseff commence à prendre le dessus. Mais finalement, évidemment, Roman Reigns, il arrive à classer un Superman Punch. Il arrive à faire le tag avec Sacha. Donc Sacha Charlotte, c'est Sacha qui prend le dessus. Elle finit par placer son bank statement, pardon. Et Reigns empêche Rousseff de casser le tombé grâce à un puissant spear. Victoire de Sasha Banks et Roman Reigns, étant donné que Charlotte a tapé, hein, elle a abandonné dans le bank statement, et donc on finit avec les deux champions, le champion US, la championne féminine, qui fêtent leur victoire. Voilà, le match en lui-même, ça, il vous a plu?
Ouais, c'était correct. C'était un bon moment, ça va, c'était pas trop long, mais
il est emballé.
Mais ouais, voilà. Non, mais bah, moi j'ai Je sais pas, c'était un match de stagnation du coup. Enfin, il y avait pas vraiment de. On sait déjà que les matchs sont déjà prévus. Enfin, sont prévus pour LNSL. On sait que les deux matchs sont prévus. Donc du coup, il y a personne. Personne n'est sorti amoindri ou grandi du match. Donc oui, non, c'était sympa. C'était un bon match, mais c'est voilà.
Ouais, c'était super anecdotique. Par contre, je pense la personne pour qui ça devait être tout sauf anecdotique, quelqu'un qui a tripé sur ce match, mais comme un malade, c'est Roman Reigns. Parce que ça fait au moins, je sais pas, 2 ans que quand il gagne un match, là, il est pas hué pour une fois. Il bénéficie de la grosse pop de Sasha Banks et donc il gagne le match avec elle et les gens applaudissent et crient de joie. Et ça fait 2 ans que ça lui est pas arrivé. Il a dû m'étriper comme un fou.
Effectivement, ouais, il profite bien de la pop de Sasha Banks hein, sur le final, hein, ça c'est sûr. Hein. Et effectivement, ça fait plaisir de le voir heureux.
Il savait plus ce que c'était, il avait
C'est
oublié.
ça. Et d'ailleurs, les deux étaient ridicules quand ils fêtaient leur victoire un petit peu, hein, faire des signes un peu pérafes comme ça. Voilà, bon, bah c'était quand même un docteur sympa, on va
On est
dire.
méchant quand même.
On
On
est
est gentil
méchant,
ce
hein.
soir,
Non,
désolé.
c'était sympa.
On est observateur, on va dire.
C'est ça, c'est
Voilà.
ça. Non, mais il faut souligner le fait que voilà, hein, Roman Reigns, il profite de la pop de Sasha Banks, qui est quand même super
Ouais.
populaire auprès du public, même si elle est nulle au micro.
Après, ouais, je
Que...
sais. Là, désolé de te couper, mais je sais pas s'il est vraiment super content qu'on lui ait refilé une fille qui vient de NXT pour lui redorer le blason, quoi. Ça fait un petit peu le gars en combien? 3 ans, même plus. Enfin, depuis Shield, ça fait genre 4 ans. Depuis 4 ans, il a pas réussi à avoir sa. Comment? À convaincre assez de fans pour avoir un minimum de pop quand il gagne. Donc, du coup, c'est.
C'est un peu gênant pour le top guy de la fédération. Bon, allez, on va enchaîner avec les tag teams. Cette semaine, chez les tag teams, c'est le New Day, hein, évidemment, qui débarque avec une distribution donc, de popcorn de Biggie qui sort les popcorn de son slip, en fait. Hein, les deux autres, bah, ils font d'un petit speech où ils font des blagues beaucoup sur des références aux héros locaux. Ils en viennent à parler de Cesaro et Sheamus. Donc alors ils disent que Cesaro c'est un mec plutôt classe, hein, mais que Sheamus par contre c'est une ordure, c'est un hot garbage, une trash. Ils sortent un carton comme ça avec un dessin. Et ensuite on a un match one on one entre Cesaro et Kofi Kingston. Cesaro vient accompagné de Sheamus, mais Sheamus ne regarde pas le match. Il est assis sur les escaliers du ring et il est sur son téléphone sur Facebook Live. Cesaro et Kofi Kingston s'affrontent. Hein, c'est un joli match. Bref, hein, mais ils se connaissent bien aussi les deux-là, hein, Cesaro et Kingston. Donc finalement, au bout d'un moment, Sheamus, il finit par se lever. Il va s'attaquer à Francesca, le trombone. Il bouscule Xavier Woods, mais il se fait sécher par Biggie, hein, qui intervient de suite. Et puis tout ce mouvement à l'extérieur du ring, ça distrait Cesaro, qui se fait surprendre par un petit paquet roublard de Kofi pour le compte de 3. Donc voilà, défaite de Cesaro, et la séquence se termine évidemment sur l'Irlandais et le Suisse qui s'engueulent. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit segment tag team, Hank, pour commencer?
C'était un peu bizarre de comment. Alors je sais plus. Il arrive quand déjà le pay-per-view? C'est le week-end
C'est dans
prochain?
3 semaines.
Non, c'est dans
Dans
3 semaines. D'accord.
ouais.
Et
3 semaines, tant que ça.
je trouve ça dommage de les avoir mis direct contre direct contre les New Day. Là, c'était pas la tag team en entier, mais pour le coup, je les aurais bien vus builder contre une autre. Enfin, avoir gagné encore une ou deux victoires contre d'autres tag teams avant de les faire perdre comme ça. En plus, sur une connerie. Donc voilà. Et puis, j'accroche moyen, quoi, leur humour, parce que c'est censé être drôle, quoi. Enfin, je pense. Le truc de la trompette. Donc voilà, ouais, j'accroche moyen. On n'est pas dans les tréfonds des docteurs Gallows et Anderson, mais ouais, c'est toute façon, ça sera un bon match technique, le match tag team des les deux équipes au pay-per-view. Mais mais voilà, là, pour l'instant, moyen.
C'est un peu léger pour te convaincre totalement.
Ouais.
C'est ça.
Ah bah okay. Oui, ça reste vraiment juste. Ils sont en rivalité parce qu'ils ont la promesse par folie d'avoir le shot, mais il n'y a pas vraiment de relation entre les équipes pour l'instant. Tout est basé sur le fait que Cesaro et Sheamus, ça ne marche pas du tout ensemble. Donc c'est ça que ça raconte, ce match-là. Après, donc il reste 2 Raw après celui-ci jusqu'au pay-per-view. Donc oui, parce que la semaine dernière, ils étaient en train de catcher contre des inconnus. Et là, cette semaine, il catch, même si on est duel contre les champions. Peut-être qu'il aurait fallu un truc intermédiaire en tant que transition, comme dit Hank, pour faire une meilleure construction du truc.
Mais peut-être qu'ils veulent juste jouer ça pour comment forcer à fond sur la mésentente jusqu'à genre le go home show. Et là, le go home show, ils ont un match où ils arrivent à s'entendre et on fait oh mon dieu. En fait, ils peuvent représenter une vraie menace. On l'a vu ce soir. Donc voilà, peut-être qu'ils essaient un peu d'enfoncer cette histoire de mésentente jusqu'au moment où il va y avoir le grand déclic. Et vu que le pay-per-view est pas tout de suite, voilà.
Ouais, je pense qu'on parlera dessus, hein, effectivement.
Mais j'ai pas regardé les vidéos Facebook Live de Sheamus, hein. Faudrait jeter un coup d'œil, ça peut être assez rigolo.
Ouais, à voir.
C'était réellement sur Facebook Live à ce moment-là, hein, clairement.
Ouais. Ça c'est sûr, ouais. Après, oui, parce qu'il est vraiment drôle chez Meus, comme ça, en improvisation. Je sais pas si ça va le temps de le faire 5 minutes.
Je sais pas, ouais.
C'est le moment de tester. Ouais.
Je vous dirai ça.
Ouais.
Voilà, tu nous feras un petit compte-rendu. Voilà, bah on va enchaîner, puis on va passer à votre séquence préférée, le Jobber's World. Jobber's World. Alors, cette semaine, hein, c'est bien fourni le Jobber's World, hein. On a Bayley qui bat Camille Fields, un sosie de Michelle Obama. Après sa victoire, Bayley se fait agresser par Dana Brooke sous le titantron. Sid Cara qui intègre les Cruiserweight est en équipe avec Lindsay Dorado et ils battent Tony Nese et Drew Gulak grâce à un Shooting Star Press de Lindsay Dorado.
C'est un bon match.
Ouais, un bon match, effectivement. Bo Dallas et Curtis Axel doivent ce soir affronter Soft, mais Enzo et Big Cass sont mis hors jeu avant que le match commence par Anderson et Gallows qui viennent leur casser la gueule, ils les passent à tabac. Boot of Doom pour Enzo et Magic Killer sur Big Cass. Donc du coup Curtis Axel et Bo Dallas lancent un open challenge parce qu'ils veulent quand même se battre ce soir et ils se retrouvent face à Sami Zayn et Neville. Axel perd le match après une combinaison I Love a Kick Red Arrow et Bo s'en va déçu en laissant son compagnon en plan. Ensuite R-Truth bat Titus O'Neil sur Roll Up. Qu'est-ce qu'on a d'autre, des pubs pour une barre de céréales. On a également Emma dans une petite pub pour sa transformation vers Emma Lina. Voilà, on n'en parlera pas pour pas choquer Hank.
Budget discount hein, quand même, ils ont toujours pas utilisé de vidéo, hein. Ils font que un PowerPoint avec des images d'Instagram, ils font ça toutes les semaines.
Tristesse, puis c'est beaucoup trop court, hein. faut dire ce qui est. Ensuite on a Braun Strowman qui détruit les Splash Brothers, c'est deux catcheurs locaux qui sont un peu apparemment assez connus sur place. Et ensuite Strowman demande un peu plus de compétition, hein, une compétition plus sérieuse comme il l'avait fait la semaine dernière. C'est un handicap match, hein, ils étaient deux, hein, les Splash Brothers évidemment. C'était peut-être son meilleur match à Braun Strowman, j'ai trouvé. Et on a aussi Goldberg et Brock Lesnar. On a une interview de Goldberg sur ESPN, un petit extrait où il explique qu'il a pas de, il doit pas de match à Lesnar. Il l'a déjà battu une fois, et c'était il y a 12 ans. Et Paul Heyman ce soir fait une déclaration, mais bon, grosso modo, c'est une pub pour le jeu 2K17, là, WWE 2K17 qui sort là dans la semaine. Il montre quelques images du jeu et après il lance clairement un challenge à Goldberg, de la part de Brock Lesnar. Voilà, s'il a les couilles, Goldberg, ben, il répondra. Bon, j'ai mis ça dans le Jobber's World, mais peut-être il va réagir un petit peu sur ce Brock Lesnar Goldberg ou
C'est bah vrai. Ouais, t'es un super punk, quoi, tant que tu mets Heyman, Lesnar et Goldberg dans le Jobber's World. Non, mais le mec.
Ben, on s'en fout, ils ont fait ça il y a 12 ans, c'était nul, ouais. Ils vont le refaire, ce sera nul. Goldberg, il a 60 ans, là. Moi, j'ai pas vraiment envie de voir ça, moi.
Il y avait pas grand chose à résumer en même temps de enfin Paul Heyman c'est le spécialiste pour faire 10 minutes quand ce qu'il est en train de dire se résume en 30 secondes.
Oui, il y avait rien dans le speech. Hein.
Mais
non, mais c'est le mec à lui seul de faire ce speech là au niveau mainstream, bon, peut-être pas nous en termes de public de catch, mais la plupart des gens, je suis sûr, ça construit le match et ça commence à faire prendre de l'intérêt ou de l'enjeu à leurs yeux. Hein. Mmh. Il est très fort pour ça. Nous, on est moins sensibles parce qu'on est plus dans l'analyse ou on est à un autre niveau. Mais je pense que le grand public, il commence à se dire, ah ouais, ça peut être cool si on voit Lesnar contre Goldberg.
Ouais, c'est pas faux.
Moi, je suivais pas le catch à l'époque de Goldberg, donc je n'ai vu que quelques vidéos ou plutôt extraits de matchs. Je suis pas forcément un gros fan des big guys, donc. Pourquoi pas, mais c'est pas ça qui me fait réveiller la nuit. j'ai pas forcément envie de.
Mince, nous ne saurons toujours pas ce qui fait réveiller Hank la nuit. Suite au prochain numéro.
Ils font un peu mieux que Goldberg contre Brock Lesnar. Ouais, bon, de toute façon, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Hein. Je pense qu'ils vont revenir dessus. En tout cas, le défi est lancé.
Au moins, on a confirmation. Non, mais on a confirmation que Goldberg sera à WrestleMania. Enfin, pas à WrestleMania.
Spoiler.
Ouais.
Il sera la semaine prochaine à Raw, effectivement.
Pour répondre au challenge.
C'est ça. Alors, est-ce que ça va aller plus loin? Bonne question. S'ils ont beaucoup d'argent pour payer Goldberg,
il va pas venir pour dire qu'il fait pas le match quand même.
Mais vous pouvez jouer mon personnage dans WWE.
Mais c'est ça, moi je me demande si c'est pas juste pour faire la promo du jeu. Hein.
Oui, mais non, mais attends,
les gars,
ils teasent. L'interview avec ESPN, elle est arrangée par la WWE. Enfin bon, c'est.
Ah, on verra. Bon, en tout cas, c'est pas vraiment un match que je vais attendre beaucoup, ça. On a la semaine Latino aussi qui rend hommage cette semaine à Tito Santana. Pour une fois, ils font un hommage à un catcheur. Donc un grand babyface, Tito Santana à l'époque. Moi, j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, jusqu'à ce qu'il le transforme en El Matador, où c'était plus triste sa fin de carrière.
Très bon guitariste aussi.
Très bon guitariste aussi. voilà, c'était mon petit clin d'œil à Tito Santana, un petit souvenir d'enfance. Et on va rester dans les souvenirs d'enfance avec le Cruiserweight Championship. On a un petit segment avec TJ Perkins, le champion, et Brian Kendrick dans les vestiaires, où Perkins essaye de faire vibrer la corde nostalgique de Kendrick. Il lui rappelle un peu les souvenirs dans le circuit indépendant, où ils faisaient la route ensemble. Il se souvient d'un Kendrick qui était sympa. À un moment donné, il lui avait payé un kebab, ou je sais pas trop combien de prix. Il aimerait bien revoir ce Kendrick. Là, il dit, Kendrick, tu as peur de perdre ta dernière chance de revenir dans la partie. Donc, je sais que t'es pas comme ça. Il lui serre la main et juste après qu'il lui ait serré la main, évidemment Kendrick il essaye de l'attaquer, il tente de le frapper, mais là Perkins il se fait pas faire, il le compte direct, il lui met une patate et c'est Brian Kendrick qui se retrouve à terre. Perkins dit peut-être que je me suis trompé, en fait t'es peut-être qu'un connard. Et plus tard dans l'émission, donc on a TJ Perkins qui affrontera Aria Daivari avec Brian Kendrick au commentaire. Un joli petit match qui est gagné par TJ Perkins avec sa clé de genou là. Daivari c'est pas trop un cruiserweight aérien, hein, c'est plus un mec technique. Il joue le heel. Alors bon, il a son gimmick ringard là de d'arabe saoudien raciste là. Ça c'est un peu pourri, mais après il est plutôt solide dans le ring. Donc une victoire de Perkins. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce petit passage cruiserweight là?
C'est un arabe saoudien raciste.
Ouais, bah c'est ça.
Non mais vas-y, hein, Miral, parce qu'à chaque fois c'est.
Non, ce passage cruiserweight, écoute, au moins j'étais un peu content quand même de voir un segment backstage. entre ça. Perkins et Kendrick. Donc ça veut dire qu'ils commencent à montrer qu'ils sont prêts à prendre un peu de temps d'antenne pour développer des histoires, des storylines un peu plus existantes en fait pour les Cruiserweight. Donc ça c'est plutôt un bon signe. Après il faut voir comment ils gèrent. Et l'incursion de Sin Cara dans maintenant le roster, on peut dire ça comme ça, Cruiserweight. Pourquoi pas, mais après, le problème, c'est pas de mettre un Cruiserweight qui va faire d'un coup que ça va marcher. Faut qu'aussi, il change un truc, dans le personnage, ou qu'il le fasse un peu évoluer, quoi. C'est comme, ça s'appelle Swagger, qui se refait lancer plein de fois, différemment, mais c'est toujours le même truc, donc ça ne marche pas. Donc, faut faire gaffe à ça.
C'est pas faux, mais bon, en même temps, je suis pas sûr qu'ils ont de gros projets pour Sin Cara maintenant. Hein. Ça fait un moment qu'il est là, et si ça avait dû marcher, ça aurait marché. Puis le pauvre Nico qui est obligé de se taper le gimmick de Sin Cara, essayer de rattraper le coup des merdes de Mystico. Voilà, c'est bien pour lui qu'il trouve ce petit poste. Je pense qu'il sera bien à sa place dans les Cruiserweight plutôt qu'à se faire squasher par Braun Strowman.
Ah, ça, on est d'accord. Hein.
Ouais, puis voilà, non, je pense pas qu'il peut s'attendre à avoir encore un gros push, hein, Sin Cara, dans sa carrière.
Sin Cara est immortel, hein.
Oui.
Donc, au bout de 3 ou 4 catcheurs, peut-être.
C'est ça. ouais, t'as quelque chose à ajouter, hein, ou peut-être.
Oui, non, mais en fait, ça m'a fait une impression assez bizarre, cette discussion entre Perkins et. Putain, je sais plus son nom maintenant.
Kendrick,
j'ai failli dire, ouais, Kendrick. C'est que, en fait, ça commençait pas mal parce que je me suis dit, pour une fois, ils vont avoir une vraie discussion, ça va pas être une interview qui dure 30 secondes. Mais en fait, ça s'est terminé tellement, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, ça s'est tellement terminé en soap opéra, où il le pousse par terre, enfin, donc du coup, DJ Perkins, l'autre, il essaie de l'attaquer, c'est super rageux, donc Perkins le pousse par terre, et après, il le regarde avec des yeux tristes, il fait, je pensais que t'avais changé.
Ah, ça fait un peu dispute de vestiaire de ouais. D'adolescent, quoi, hein,
mais tu comprends pas, je suis ton ami.
c'est Art Laker à vif,
c'est ouais. Ça ouais.
Ouais.
Là, il a une
je suis pas contre, c'est un style différent, quoi, je suis pas contre.
Au moins, il travaille un peu les Cruiserweights, donc c'est plutôt sympa. Puis d'avoir Kendrick au commentaire aussi, ça prouve qu'il porte un intérêt quand même aux Cruiserweights, donc c'est plutôt sympa, plutôt qu'il laisse ça dépérir, quoi. Voilà. Autre chose à ajouter? On a fait le tour là-dessus.
Bah, il est bon au commentaire. Enfin, c'était pas mal. Ses commentaires et tout.
Ouais, il est bien dans son personnage de heel. En bas.
Ouais, non, mais carrément, Kendrick, ça le fait bien, il a le personnage, c'est le seul d'ailleurs pour l'instant qui témoigne d'une gimmick qui se ressent rien qu'en le regardant, donc c'est lui peut-être qui a le plus d'expérience entre eux. Hein, donc,
Ah si, il y a Perkins qui a essayé de lâcher un petit peu de sa gimmick quand il parlait justement à Kendrick en lui disant un truc du genre « il te reste encore une vie » ou un truc comme ça, tu sais, c'est genre une référence jeu vidéo.
Enfin, ouais, oui, il travaille son gimmick de personnage de jeux vidéo.
C'est des discours sentimentaux avec des références de jeux vidéo.
Et quelqu'un a compris de quoi il parlait quand il lui a dit qu'il doit racheter un truc, parce que ça, j'ai pas compris. Quand ils étaient sur la route des indies, là, il a dit qu'il avait cassé un truc, mais j'ai pas compris quoi.
Ouais,
et il avait racheté.
Ils avaient c'était une histoire de pneus crevés ou il lui avait racheté. Ouais, je sais plus. Il lui avait racheté un truc. Il était allé à la station essence, il lui a acheté une sucette. Je sais pas.
Ok, bon, on en saura pas plus. Ok, bon, allez, on va enchaîner et on va passer au gros morceau, le fil rouge de l'émission. Tout ce qui tourne autour de l'Universal Championship qui est tenu toujours par Kevin Owens. Je vais vous faire tout le déroulé, hein, ça sera un petit peu long, mais je vous laisserai parler à la fin. Donc, ça démarre avec Mick Foley dans les coulisses, qui est en route pour une intervention dans le ring, et il est rejoint par Stephanie McMahon, qui décide de s'incruster, hein, tout simplement. Il dit tiens, tu vas vers le ring, je vais venir avec toi. Donc après, on se retrouve sur le ring. Bizarrement, Stephanie, elle joue les gentilles. Elle pique la catchphrase de Foley en disant on est bien ici à Auckland. Le clan de California. Donc Foley confirme le match Hell in a Cell défi, hein, ça on le savait déjà, et il annonce ensuite que l'Universal Championship entre Seth Rollins et Kevin Owens sera aussi défendu dans Hell in a Cell. Du coup il y a Jericho qui débarque, hein, Chris Jericho et le champion Kevin Owens. Owens explique qu'il ne veut pas faire d'Hell in a Cell, tout simplement parce qu'il ne veut pas terminer comme Mick Foley, un vieux general manager lessivé, parce que Mick Foley, hein, c'était Mankind, c'est un mec qui a rendu légendaire, hein, les Hell in a Cell avec ses affrontements contre l'Undertaker. Jericho, lui, il est venu avec sa liste, hein, comme d'habitude. Il remet Foley sur la liste, parce que le general manager, il donne des matchs à qui lui demande au final, hein. Tu demandes un match, tu l'as. Donc Jericho explique, hein, si nous on voulait un jet, tu nous donnerais un jet, ou qu'est-ce qui se passe, hein. Ça va pas. Il repart de la vendetta de Foley contre Jericho, qui se sont jamais aimés. Foley, il rigole, hein, dit, tu me mets sur la liste, mais la liste, tu l'as fabriquée pour moi au départ. Jericho, il dit, je te remets encore dessus, c'est pas grave. Et là, Chris Jericho, il demande à Stéphanie de s'occuper de Foley, hein. Il dit, tu veux bien t'occuper de ce type, là, ça va pas du tout. Mais Stéphanie, elle dit, non, je vais pas m'occuper de Foley, c'est une légende, c'est lui le general manager pour qui tu te prends. Ce que je te propose plutôt, mon bon Jericho, c'est que si ce soir, dans le main event, tu arrives à battre Seth Rollins, tu intégreras le Hell in a Cell de Hell in a Cell qu'on débouche sur un triple threat, Kevin Owens, Chris Jericho, Seth Rollins dans le même match, et donc ça si Jericho arrive à battre Rollins ce soir. Jericho, il est plutôt satisfait. Ça se termine là, on voit que Kevin Owens lui est pas trop content. Ensuite on a une interview backstage de Rollins qui va démonter Nitro morceau par morceau. Il drague un peu la petite Charlie là, la nouvelle intervieweuse. Ensuite on a l'hebdomadaire Tom Phillips qui interviewe Jerry K.O. Donc il rappelle qu'ils sont, hein, à eux deux l'Universal Champion, que la semaine dernière Kevin Owens n'a pas aidé Jericho parce que il faut qu'il y en ait un des deux qui reste en forme, hein, dans l'équipe. On met Felipe Thomas sur la liste, évidemment. Plus tard, Jericho discute avec Stéphanie. Il explique qu'il avait commencé à écrire son nom sur la liste, mais il savait pas trop comment les plaire. C'était sous le coup de la colère en plus, donc après il a arrêté, il a raturé tout ça. Donc Stéphanie, elle explique que quand il sera à Hell in a Cell, hein, s'il arrive à se qualifier ce soir, elle pourra plus l'aider, mais qu'il sait très bien ce qu'il doit faire pour bénéficier à sa team Jericho. Il y a Kevin Owens qui débarque juste après, il s'inquiète un peu de la discussion, mais Chris Jericho le rassure, tout ça c'est pour l'amitié. Et donc tout ça déboule sur le main event, Y2J qui affronte Seth Rollins. Donc ça se bagarre, Rollins à un moment donné il s'essuie les fesses avec l'écharpe de Jericho. Donc c'est assez serré, hein, on se rend coup pour coup. Et à un moment donné, donc il y a Kevin Owens qui débarque avec sa musique. Il va interférer plusieurs fois dans le match. Il arrive à placer un super king sur Rollins, mais Jericho n'arrive pas à faire le compte de deux. Il n'arrive qu'à faire un compte de deux, pardon. Jericho essaye de placer le wall of Jericho, mais Rollins le contre avec un roll-up pour le compte de trois. Ensuite, Kevin Owens vient passer Seth Rollins à tabac. Rollins, il arrive à esquiver une pop-up powerbomb qu'essaye de lui placer le champion. Il tente un pedigree, mais il est attaqué par Jericho, qui est revenu à la charge. Alors là, Jericho, au lieu de le passer à tabac, il essaie de se relancer dans un match. Je sais pas pourquoi, il le projette dans les cordes. Il se fait rapidement contrer, il est victime du pedigree. Et Kevin Owens préfère battre en retraite, laissant Seth Rollins fêter sa victoire. Y2J inconscient à ses pieds. Voilà, c'était un petit peu long, mais maintenant je vous laisse parler. Par exemple, mon bon amiral, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça?
Il est où Triple H?
Ah, Triple H, il revient pas tout de suite, faut attendre la fin de.
On
la
avait oublié ça, tiens.
Voilà, mais non, mais je le ramène sur le sujet parce que non, non. Ouais. Hormis cette connerie, mais quand même, oui, effectivement, Triple H serait bien qu'il vienne à un moment donné pour un peu d'inanimité de tout ça. Bon, ça continue d'installer le truc. La perspective qu'à mon nez, Jericho vienne en triple threat, j'ai pas. Enfin, je me doutais que ça allait finir comme ça, que Rollins allait gagner. Puisqu'en fait, à aucun moment donné, Rollins râle sur ce sujet pendant l'émission. Alors que si on y réfléchit, comme l'a dit Michael Cole au moins 5 ou 6 fois, si Jericho va en triple threat pour l'Universal Championship à l'NSL, eh bien Rollins s'y retrouvera à 2 contre 1, carrément. Donc du coup, c'est un peu bancal, je trouve que ça ne marchait pas vraiment. Après, Jericho reste super drôle, le match en lui-même était cool, donc ça avance un petit peu, mais ça manque de réelle surprise, on va dire, dans la storyline, quoi.
Ok. Donc.
Ouais, moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée en fait au départ. J'aime bien, je trouve qu'ils font ça assez souvent ces derniers temps, de un peu booker un match de pay-per-view et rajouter après un petit truc genre oui mais alors si ce soir tu gagnes pas, il y a tel truc, ou alors si ce soir enfin je vais te mettre contre telle personne et puis alors du coup il sera ça fera un triple threat ou ça fera machin. Il me semble qu'on a déjà eu le même truc il y a pas très longtemps, bah, avec les filles avec Dana
C'est
Brooke.
ça.
Je trouve que c'est pas mal comme mécanique parce que ça donne quand même de l'intérêt au match, même si bon, on est sûr à 99% que Rollins gagne. Mais voilà, après, c'est presque. Je sais pas s'ils s'en sont pas rendu compte pour Rollins, du coup, qu'ils ont un peu laissé comme ça, sans réaction à cette stipulation. Mais il jouait clairement sur enfin, la rivalité, sur la tension entre Jericho et Owens,
Et Owens.
un peu enfin buildé. J'arrête pas de dire buildé en ce moment. Un peu construire ce moment où va y avoir un des deux qui va trahir l'autre, sûrement Jericho. Donc voilà, le match en lui-même, ouais, il était cool. Moi j'espère vraiment que ça va revenir avec ces pay-per-view, mais Seth Rollins, je sais pas, il lui manque quelque chose en ce moment. J'ai vraiment, j'attends qu'il revienne au niveau où à chaque match que je voyais de lui, voilà, enfin, j'étais impatient de tous ces matchs, même quand il n'y avait pas d'enjeu ou quoi que ce soit, parce qu'il était vraiment excellent. Et puis là, voilà, je sais pas si c'est parce que, enfin, j'allais dire il stagne, il est dans la top card, mais quand même il est dans des storylines où il perd, on comprend pas trop, enfin où ça va au niveau storyline. On a un peu l'impression qu'il est là en attente de Balor, enfin il a un peu pris genre la place de Balor.
Ouais, je pense qu'il est en transition en ce moment. Il est
Ouais.
en son process, son turn en fait, hein, de heel à future face. Hein, c'est ce qu'il en est depuis qu'il est, même quand il est revenu blessé, on s'y attendait, c'est revenu beaucoup plus tard. Je pense qu'ils le font vraiment sur un peu la longueur. Ils le font traîner sur un mois et demi.
Ouais.
Donc je pense qu'il est un peu en transition et que là du coup il est dans un personnage qui est pas très clair interprété. Donc peut-être que ça se ressent aussi dans son ring, je sais pas.
Et je le
Mais
vois, le truc c'est que je le vois perdre moi au pay-per-view et je vois Balor prendre le relais quoi. Parce que
Non
enfin,
mais
ouais, non, quoique Balor il va pas arriver tout de suite, non.
ah bah alors il sera pas là avant un
Non,
nouveau
c'est vrai,
mois.
non, c'est vrai, j'ai une connerie. Mais
T'as encore il y a encore 6 mois un truc comme ça je crois donc
vu que Balor, enfin vu qu'au moment où Balor reviendra et Rollins sera face, ce sera pas contre lui du coup. Donc je sais pas. Je sais pas s'ils lui ont promis en fait un rematch Balor d'ailleurs, je sais plus. Mais donc ouais, la storyline.
On se doute que ça le fera, que quand il reviendra, il dira ok, il y a une ceinture que j'ai jamais perdue, donc concrètement je veux un match. Donc il aura un title shot comme ça, je pense.
Mais donc ouais, l'idée de base était bien. Par contre, enfin, le Stéphanie qui fait la face, qui défend Mick Foley à donf, alors qu'elle le pourrissait comme pas possible la semaine dernière. Enfin bon, elle est écrite. Stéphanie, elle est juste en dessous de Roman Reigns dans mon top des personnages les moins bien écrits en ce moment.
Bah, ils sont un peu trop subtils, je crois, dans le traitement de Stéphanie.
C'est ça, parce que moi je suis pas d'accord. Je pense, pour moi, cette scène-là, je l'ai prise comme c'est Stéphanie qui est une connasse invétérée, qui fait la gentille. Mais c'est pas le personnage est écrit là pour devenir face cette pote de Mifflet. C'est vraiment elle qui fait, qui se fout de la gueule entre une foulée ou qui fait la langue de bois et qui fait la doucerette, alors que pas du tout. À mon avis,
ouais.
C'est ça. Hein.
Je sais pas.
Elle est machiavélique
oui,
depuis
non, mais je...
tout le temps. Donc.
Ouais, mais c'est un peu un prétexte.
Et Anguille sous Roche.
C'est un peu un prétexte pour tout en fait. Elle est machiavélique, genre même le passage où elle redevenait gentille en fait. Faut pas oublier qu'elle est machiavélique. Faut pas oublier, etc. Donc du coup. C'est ouais, j'aimerais bien qu'on sache à la fin, enfin que c'est qu'elle arrête, qu'elle soit purement machiavélique ou purement face, et qu'elle arrête de faire ce genre de truc là. Par contre, oui, c'est sûr que la séquence, c'est parce que je sais pas si t'en avais parlé, mais le costard de Follet
oui,
qui ressemble à rien là, une nappe enfin.
Bah ouais. En fait c'est simple, c'est comme les chemises à carreaux rouges, un peu de bûcheron, une espèce de laine
ouais,
polaire là, mais ça en costard.
Voilà. Voilà, c'était dégueulasse. Et puis Mick Foley, je trouve ça aussi peut-être un peu dommage. Après il y a des gens que ça fait rire, mais je trouve ça dommage que du coup il devienne déjà un bouffon quoi. Il est déjà devenu un peu le bouffon de Stéphanie. Est-ce que ça va, ils vont l'approfondir pour mener à une espèce de petite guerre ou quoi que ce soit, enfin je sais pas. Mais voilà, ce main event était sympathique, rien ne change et tout
tire,
va moyennement.
On tire en longueur, hein, on tire en longueur toujours cette grande histoire là, entre l'autorité, Seth Rollins, Kevin Owens, Chris Jericho. Ça fait beaucoup de monde hein, dans une même histoire. Stephanie McMahon, Mick Foley. Ouais, et que c'est toujours Chris Jericho qui s'en sort le mieux, moi je trouve. Et je pense que c'est aussi un petit peu ça qui doit poser problème à Seth Rollins, parce qu'il est du coup il est il peut pas briller autant qu'il le devrait, parce que c'est toujours plus Chris Jericho, Kevin Owens qui sont plus fun à regarder. Voilà, bah écoutez, on va. À moins que vous ayez encore peut-être quelque chose à dire, mais je pense qu'on va passer au mot de la fin, parce qu'il est, il est déjà
moi,
tard.
Ça me va.
Ouais, juste le dernier truc, c'est sur Rollins, justement, en fait, on a l'impression que depuis qu'il est face, en fait, on lui a un peu coupé le sifflet, quoi. Quand il était heel, il faisait des speeches, des très bons speeches généralement. Sauf avec Balor, hein, sauf la rivalité avec Balor que j'ai pas aimé, mais voilà, et maintenant on lui a un peu coupé le sifflet, donc du coup il disparaît un petit peu. J'ai l'impression que c'est le mec le plus effacé de la.
C'est ça, mais surtout ils le mettent souvent à parler tout seul ou alors juste interviewé par quelqu'un au micro. C'est pas là qu'il est le meilleur, il est toujours plus percutant, je trouve, quand il fait des speeches en face à face. Mais ça, bon, après, c'est quand t'es face, hein, t'as pas forcément les textes les plus intéressants, quoi, sauf si t'es John Cena, quoi.
Ouais, puis c'est tel ça, voilà. Soyez respect, t'en fais des t-shirts, tu gagnes plein d'argent.
C'est ça.
C'est clair que c'est très différent de passer un heel, en plus vachement exposé comme ça, à un face. Je pense qu'il faut qu'il trouve ses marques, quoi, comme on disait, il est en transition, donc là, il est un peu.
Ouais, puis j'ai jamais vu un face turn aussi long, quoi, c'est. Quand même super casse-gueule hein, leur histoire, mais bon. Bon allez, le mot de la fin, un coup de cœur, un coup de gueule, une note. Allez, Amiral, tu étais en train de parler, continue.
Coup de gueule, je commence par ça. Le match de Bayley de ce soir, c'était mais une catastrophe, je trouvais.
C'est vrai.
Ah ouais, le match de Bayley contre Camille Fields là, c'était n'importe quoi. Bayley en plus, elle est de Californie, donc c'est un peu homecoming. Elle est toujours avec beaucoup de fans là-bas. Mm-hmm. Et ils lui font combattre ces nanas qui n'est pas dans le roster. Et ça marche pas quoi. Enfin, il n'y avait pas eu de gros énormes butch, mais juste il n'y avait aucune alchimie. C'était pas dynamique et.
Oui, elle était pas très douée là, la pauvre.
Ah non. Bah, ils n'auraient pas eu le temps de s'entraîner, j'imagine, de répéter vraiment le match. Pas la même connaissance de l'autre, j'imagine. Mais au final, je trouve ça vraiment dommage de donner ça à Bayley. Il y a bien mieux à faire. Qu'est-ce qu'elle fait, Nia Jax? On ne la voit pas depuis 2 semaines. Il y a Bayley, Nia Jax. Est-ce que
ouais. Elle va passer par Dana Brooke, visiblement.
Voilà.
Mais est-ce que ça sera beaucoup mieux? Je ne sais pas. Ok.
Non, je ne pense pas. Le coup de cœur, bah, le duo, surtout Jericho, mais aussi avec Kevin Owens, je trouve que ça marche très bien. J'ai bien aimé le fait qu'il fasse une interview avec Tom Phillips, puisque généralement Tom Phillips, c'est un des intervieweurs, un des commentateurs qui commente NXT et qui fait beaucoup d'interviews backstage pour le network ou pour le site WWE.com. Et beaucoup de fois, il va interviewer les gens avant les matchs, après les matchs. Il y a toute une série sur lui et Kevin Owens que vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube, des compiles. Et c'est juste à se pisser dessus. Donc là, c'était un peu en dessous de ce qu'il fait d'habitude parce qu'il doit être un peu plus scripté à la télé par rapport à ce qu'il met dans son network et le net. Mais bon, ça marche bien, quoi. You made the list. Voilà.
Ouais.
C'est
Non,
cool.
c'était. Qu'est-ce qu'il est Felipe Thomas quand il est en train de lire
Oui.
ce qu'il a écrit de Jericho? C'est pas du tout ça, c'est pas grave. Non, moi c'était vachement drôle, ouais, effectivement.
Très fun. Et donc la note globale, je vais dire 3.
3, un 3. Boum. Hank, vas-y.
Alors, le coup de gueule, ça va être Sasha Banks.
Ok.
J'ai déjà expliqué pourquoi. Hein, faut, voilà. J'espère que quelqu'un aura les couilles de lui dire. Il faut vraiment qu'elle prenne des cours ou qu'elle sache s'exprimer autrement, etc. Parce que non seulement elle répète la même chose, mais en plus elle le dit avec une voix très énervante. Et elle allonge énormément ses mots, ça donne pas de style ni rien, c'est juste chiant. Et le coup de cœur, ça va être pour les cruisers. Je passe toujours des bons moments à regarder les matchs des cruisers pendant Raw. C'est vraiment voilà, ça a remplacé des matchs de merde qu'on pouvait avoir de alors bon il est enfin si il est toujours là Hartrouf tout ça bon
Arthrous et
voilà
comment il
oh
s'appelle
mon Dieu
son adversaire du soir là,
bon
Titi voilà.
ce qui
Sonil
fait que Hartrouf on le voit quoi une semaine sur deux et puis le match est vraiment court mais ouais les matchs des Cruisers sont vraiment cool moi j'ai vraiment bien aimé celui de Sin Cara et elle c'est quoi comment il s'appelle Dorado? Je sais Lince Dorado.
plus. Dorado, ouais. Lince Dorado. Donc voilà, ça me fait plaisir aussi pour Sin Cara, Bot Shaman, qui va enfin pouvoir faire des vrais matchs. Même s'il les gagne pas, il fera des vrais matchs, pas contre les social outcasts, hein, contre des vrais catcheurs. Donc voilà, je suis content pour lui. Et puis enfin, les cruisers, ça serait bien, voilà, de mettre un peu plus de storyline dedans. Je sais pas s'ils ont vraiment le temps ou l'énergie pour le faire. Mais voilà. C'est des bons moments et c'est cool. Et ma note sur ce pay-per-view. Je vais mettre que
Non, c'est
c'est
un weekly.
ce pay-per-view,
C'est pas un
c'est
pay-per-view.
weekly. Je sais pas pourquoi j'ai dit pay-per-view. C'était loin d'un pay-per-view. Ouais, je mettrais 2,5. Parce que c'était quand même très moyen partout. Quasiment rien à avancer. Et puis il y a eu voilà deux trois bons moments mais ça semblait quand même longué et, ouais non c'est tout ils savent pas quoi faire de Bayley enfin ils savent pas quoi faire ils être avec Dana Brooke donc ça veut dire qu'ils savent pas quoi faire donc voilà c'est dommage.
Ok. Bon, moi, en coup de gueule, vous aurez compris, c'est Goldberg contre Lesnar. J'ai pas du tout envie de voir ça. Surtout qu'en plus, Lesnar est pas là, donc on envoie Paul Heyman qui fait 20 minutes avec rien du tout. C'est tout à son honneur, mais c'est quand même pas super intéressant. Le coup de cœur, ben tu me l'as un peu piqué, Hank. Ouais, c'était sur les Cruiserweight aussi, et puis particulièrement sur l'intégration de Sin Cara dans le roster des Cruiserweight, hein, parce que comme je disais, effectivement, il a pas mal galéré, le pauvre, et je pense qu'il sera bien à sa place dans cette section. Pourquoi pas champion, hein, d'ici quelques temps. Et puis pour la note, je vais être moi sévère que vous, je vais mettre un 3,5, parce que moi, personnellement, j'ai passé un bon moment, il n'y a rien qui m'a trop ennuyé. Même si j'ai pas aimé le segment avec l'arrivée de Goldberg Lesnar. Il a quand même suffisamment de talent, Paul Heyman, pour que ce soit
Oui, ça
passé quand
reste
même.
Divertissant. Ouais, il te hype le
Voilà.
truc. C'est Paul Heyman, on voit pas souvent, donc du coup, ça passe encore. Hein.
C'est
Ouais,
ça,
donc ça
c'est
fait une
ça.
moyenne de 3 là.
C'est
Sur le truc.
ça,
3 comme le
mathématicien.
nombre de matchs qu'il y aura dans Hell in a Cell au pay-per-view Hell in a Cell.
Voilà. Et on espère pas plus, hein, parce que sinon après ça va devenir.
Non, ouais, bon, ça alors, fait beaucoup déjà.
La soirée, ça va être chiant. Ouais, ça fait beaucoup. D'habitude, généralement, je m'étais toujours dit dans les pay-per-view à de grosses thématiques, ils en mettaient un match ou deux maximum. Même trouvé, je trouvais que c'était trop peu à une époque. Et là, je suis pas contre le fait qu'ils insistent un peu plus sur la spécificité du pay-per-view par rapport aux autres.
J'espère juste qu'ils vont pas tuer une des deux filles. Mais pour le reste,
on sait que ça sera Sacha.
Au moins,
Sacha, c'est clair. Hein.
Mais... Il va faire un suicide dive du haut du truc là, à se casser.
Oui, j'allais dire ça va empêcher les suicide dives, mais bon, si elle passe au-dessus de la cage, non mais.
Ouais, voilà. Ça se trouve, elles vont monter en haut et puis.
Non, mais c'est bon. On a déjà eu Shane qui a fait ça pour sauver son match pourri là de WrestleMania.
Aïe. Bon bah voilà, on a fait le tour. Donc ben on va vous rappeler hein, que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires. Hein, si vous n'avez pas été content que je mette Goldberg et Lesnar dans le Jobber's World, vous pourrez me critiquer. Si vous n'êtes pas content parce que le podcast est arrivé un petit peu en retard, vous pourrez aussi mettre ça dans les commentaires.
Si vous aimez aussi. Hein.
Si vous aimez aussi, vous pouvez, mais visiblement quand ils aiment, ils en parlent pas trop. Pour le reste, bah, venez aussi sur les cahiers du catch, hein, le forum est ouvert, hein, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Vous nous retrouverez, hein, on pourra discuter avec vous. Et pour le reste, je remercie l'amiral Ambar pour sa participation.
Mais de rien, merci à tous.
Et Hank, pareillement, merci beaucoup.
Ouais.
Et... ouais. Excusez-moi, hein. Merci les gars.
J'avais rien à dire.
Alors, il faut qu'on vous mentionne quand même que vous retrouverez l'analyse de No Mercy, le pay-per-view SmackDown, dans le supplément SmackDown qui sera peut-être en ligne avant Catch-up 25.
Parce qu'on a botché. Parce qu'on a botché l'enregistrement, en fait. On en a enregistré un avec l'amiral et voilà. Triste.
C'est triste. Mais comme vous voyez, on vous dit tout. Et puis si vous êtes abonné, eh ben, vous aurez tout dans les temps, en temps et en heure. Voilà, bah, pour le reste, moi je vous remercie. Et puis je vous souhaite une excellente semaine pleine de catch. Ciao, ciao.
Salut.
Salut.